Je dirais qu'on suit un cheminement assez logique et que maintenant, on va en arriver à une étape importante du parcours du combattant des victimes qui va être la continuité de la procédure, c'est-à-dire le procès et tout ce qui tourne autour. Et je suis très heureux d'accueillir une magistrate et une avocate qui vont chacun donner leur point de vue par rapport à cet aspect particulier, et notamment l'aspect très singulier de la cour d'assises, où se dramatisent des choses très, très crues, très difficiles. Et je commence à donner la parole à Madame Fèvre, qui est magistrate auprès du tribunal de grande instance de Paris, et justement du procès en cour d'assises. Je crois qu'elle va vous commencer par la présentation d'un film qui va permettre de donner des aspects très concrets à cette intervention.
Merci. Voilà, on va attendre que ça se fasse. Un petit pas d'effet Larsen, peut-être. Alors, je tiens à remercier le docteur Ressalmon très vivement de m'avoir invité à partager avec vous ce moment autour de l'interaction auteur-victime, dont vous disiez, M. Villa, que c'est un moment singulier. Et vous verrez que le singulier, singularité, c'est un mot qui revient assez souvent dans ce que je vais vous dire, parce que c'est effectivement très singulier. Donc c'est une expérience de président de cour d'assises que j'ai eu l'honneur. Alors je sais que ce mot est un peu prétentieux, mais quand même, je suis obligée de le garder, parce que c'est vraiment un honneur que de partager avec les citoyens, peut-être que certains d'entre vous ont été jurés, dans notre pays, la fonction de juger, parce que ce sont des juges d'un jour, c'est ce qu'on leur dit en tout cas, alors c'est parfois de plusieurs jours, mais c'est une tâche qui est difficile, qui est la leur, et le président de la cour d'assises est là pour les entourer, et ça va être un petit peu le sens de la vidéo que vous allez voir. Alors, dans une période qui est aussi troublée que celle que nous traversons, non, disait deux mots avec le docteur Ressalmon tout à l'heure, c'est qui est à la fois l'horreur tragique des trois jours de la semaine dernière et la merveilleuse manifestation de dimanche. Je dirais que ça rend compte paradoxalement de ce qu'est un procès de cour d'assises, c'est-à-dire c'est à la fois l'horreur d'un acte au cours de qui va, et l'audience va permettre d'évoquer les faits dans leur horreur. Donc c'est une confrontation avec l'horreur de l'acte et en même temps la recherche au sens anglo-saxon un petit peu du terme. Quand j'ai voulu faire la recherche de rétribution, j'ai rien trouvé. C'est la fonction finalement rétributive de l'audience de la cour d'assises. Alors c'est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. Enfin, je vais essayer de vous faire partager tout ça. Étant précisé que ça c'est chaque fois différent. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé utile, dans un premier temps, de m'appuyer sur un support qui est en réalité, j'ai eu aucune légitimité, enfin, je veux dire, on ne peut pas m'accorder de crédit sur ce document, c'est le document qui est projeté aux jurés au début de chaque session d'assises et qui leur explique leur rôle et qui est extrêmement pédagogique sur ce que constitue une audience d'assises. Donc, avec l'aide de Madame Dupont, on a essayé, alors je vous demande beaucoup d'indulgence parce que on l'a fait à deux et de façon en se parlant par mail, donc il peut y avoir des petites approximations, mais on a fractionné, si je puis dire, cette vidéo pour en extraire ce qui peut être utile au soutien de l'intervention qui m'a été demandée. Alors, je redemande beaucoup d'indulgence. Alors, je crois que d'après ce qu'il m'a expliqué, il faut que je lance là. Ensuite, j'appuie là, c'est ça ? Ah, on n'a pas le son. Alors, on va faire pause.
La session d'assises ouverte. Élis le serment au...
Alors, on recommence. On va avoir le son, là, je pense. Bon.
La loi, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, sans que ce soit toujours les plus forts qui dominent les plus faibles.
Le président déclare la session d'assises ouverte. Élis le serment aux jurés.
Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever, la cour va maintenant recevoir votre serment.
Alors, dans ce propos, on voit deux choses qui sont essentielles, qui sont le fait qu'effectivement, on rappelle ce qu'est la loi, qui s'extrait, si je puis dire, de l'horreur de l'immédiateté, premièrement, et deuxièmement, la solennité, c'était comme ça que je l'avais intitulé, la solennité qui va s'attacher à l'ouverture d'une affaire d'assises. Pourquoi cette solennité, finalement ? Alors, je crois qu'elle a son importance, et vous allez le voir, ça va être un peu une idée fixe de ma part, c'est parce qu'elle est dans le registre de la mise à distance. C'est-à-dire, cette solennité, elle n'est pas là pour être seulement solennité, mais elle est également là pour être témoin de ce qui va être la mise à distance, de ce qui va se passer pendant qu'on évoque l'affaire, voilà, le procès.
Dès lors que les noms des jurés sont définitivement arrêtés, après d'éventuelles récusations, le président déclare la session d'assises ouverte et lit le serment aux jurés selon l'article 304 du Code de procédure pénale. Session durant laquelle les jurés doivent promettre d'examiner scrupuleusement les charges portées contre X et de rendre un jugement sans parti pris, issu de leur intime conviction, forgée durant le procès.
Il nous faut 6 jurés en première instance et 9 jurés en appel.
On va avancer.
La récusation peut intervenir lorsque l'on estime que le juré...
Je reprends là directement parce que c'était pas ce que j'avais sélectionné ici. Oula. Là, j'appuie là. Madame Dupont. Mais c'est pas grave. Non. Dites-moi. C'était pas ce que vous avez sélectionné. Genre, je retourne là où j'étais.
Attends, moi, ce qu'on va faire, ce qui va être plus simple.
C'est pas grave, d'accord.
On va faire. Comme ça, je vais pouvoir l'arrêter là en fonction du. Chronométrage était...
D'accord. Ok, on va essayer.
Et de rendre un jugement sans parti pris, issu de leur intime conviction, forgée durant le procès.
Il nous faut 6 jurés en première instance.
Pour avancer, je
vais. Et 9 jurés en appel.
La récusation peut intervenir lorsque.
Je vais avancer.
On va avancer. Voilà. Jusqu'où, par contre ?
Un peu plus loin, je ne sais pas. Bah, moi, j'ai un topo, j'ai 10. Vous avez quoi là ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce que je ne sais pas comment vous l'avez séquencé.
Ah, mais. Excusez-nous. En fait, non, je vous ai fait ça, puis ça, puis ça, puis ça.
D'accord. Ok, donc là, on est en deuxième séquence.
Là, on était là.
On est là.
Ouais.
Ok, bon, on va passer là. On va passer là.
Mais je ne sais pas où c'est. Là.
D'accord.
Lorsque les charges sont suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été définitivement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Lors du procès, de nombreux acteurs de la justice interviennent, permettant ainsi au juré de se fonder une intime conviction. Le premier d'entre eux est le président de la cour d'assises. Il dirige les débats, interroge l'accusé, fixe l'ordre d'audition des témoins et des experts, décide des interruptions d'audience. Il veille à ce que les débats se déroulent dans la dignité, l'ordre et la sécurité.
Mon rôle, c'est à la fois de les mettre à l'aise, de les laisser parler, de répondre à leurs questions et d'essayer d'expliciter tout ce qui n'est pas clair pour eux.
Vraiment une personne qui nous a beaucoup aidés, qui nous a guidés, qui nous a pas, fait changer dans nos convictions, mais qui nous a aidés dans nos choix et qui nous a permis, je pense, de prendre des décisions de façon plus facile.
Je sens un peu froid. Mais c'est pas qu'ils sont froids, c'est qu'ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils ressentent. Ils sont obligés d'être le plus impassible possible. Bon, allez, c'est s'ils commencent à montrer ce qu'ils ressentent, on saura ce qu'ils vont juger. Ils ne peuvent pas.
La cour d'assises est une procédure orale. Il établit les arrêts pénal, civil, et il signe toutes ses pièces en compagnie du président.
On va l'arrêter carrément.
L'huissier audiencier est chargé d'assurer.
Hop.
Et voilà, on arrête parce que les passages qui ont été sélectionnés, qui vous sont restitués, ne sont pas, correspondent pas à ceux que j'avais, parce qu'on n'a pas eu le temps de se mettre en ordre, les deux. Et voilà, mais c'est pas très grave. Je vais faire un petit peu, si vous voulez, le commentaire du film que je faisais au juré. C'est-à-dire que, donc, dans la solennité dont je parlais tout à l'heure, je vous expliquais tout à l'heure qu'elle était faite pour mettre à distance. Et dans la mise à distance, il y a la formule du serment des jurés qui leur est rappelée, qu'ils prêtent tous debout, la loi dit « découvert ». Ça pose question aujourd'hui le regard de certaines réalités. Bien. Il faut la faire respecter, cet aspect de découvert. Prêtent leur serment, qui est un serment d'impartialité, qui est un serment d'examen avec sérieux. Et il y a donc la solennité de ce moment où les jurés prennent la place finalement de juges avec les obligations qui seront les leurs. Bien. Et puis, c'est ce que j'indiquais donc ensuite, c'est et les jurés ne sont pas prêts à être juges d'un jour. Donc on leur explique beaucoup, alors, et c'est la partie qu'expliquait un petit peu le président tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on leur explique la partie humaine de leur rôle. C'est-à-dire qu'on va leur distribuer toutes les cartes juridiques et on va faire d'eux des juges, mais dans un contexte de prise en compte d'une humanité qui est difficile. J'avais l'habitude de leur dire que les murs des cours d'assises ruisselaient d'humanité, tellement ce qu'on y voit est épouvantable et qu'il faut donner tout ce qu'on a d'humanité. Alors, le président est assisté également de deux assesseurs qui sont des magistrats professionnels qui ne connaissent pas le dossier. Pourquoi ? Parce qu'il était dit tout à l'heure dans le début de la vidéo, et ça a son importance, c'est que la procédure est orale. C'est-à-dire qu'on va évoquer toute l'horreur de l'acte pendant la durée du procès de façon orale. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le dossier, il va appartenir à l'avocat qui est à côté de moi, il va appartenir à l'avocat général, il va appartenir à moi-même, il va appartenir à tous les acteurs de mettre en réalité cette horreur de l'acte. Et c'est là où il va se passer un moment assez extraordinaire, et je regrette que le passage sur la victime n'ait pas pu être projeté de façon suffisamment claire, parce que la victime elle-même n'est pas préparée à ça, n'est jamais préparée à ça. C'est-à-dire aussi attentif soit son avocat, aussi précautionneux soit-il, cette confrontation est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'était un petit peu un autre volet que j'avais prévu de projeter, qui sont les acteurs. Pour que cette procédure soit orale, et qu'il y a, en dehors des professionnels qui font vivre le dossier, qui lui donnent réalité, vont parler des faits, d'abord les enquêteurs eux-mêmes, qui sont ceux qui vont être intervenus au plus près de l'acte, et ils vont dire ce qu'ils ont vu, et ils vont dire les éléments qu'ils en ont tirés en termes d'enquête. Font également partie des témoins tous ceux qui vont décrire la personnalité de l'accusé, d'autres témoins qui vont pouvoir décrire quel est l'environnement de la victime, d'autres témoins enfin qui seront des témoins objectifs de la réalité de l'acte qui s'est passé, et enfin, et c'était un autre sujet qui va vous intéresser au premier chef, les experts qui seront à la fois des techniciens qui vont nous donner des explications sur... alors, quand il s'agit d'armes, ça va vous parler tout de suite, c'est de la balistique, c'est-à-dire comment est-ce que les trajectoires ont été faites. On va avoir, quand il y a des... quand les victimes sont décédées, on aura des légistes, on a aussi ce qu'on appelle les médecins légistes du vivant, qui vont décrire, effectivement, les lésions, le processus d'enchaînement des lésions, et d'autres experts qui pourront être, alors c'est très très varié, là. Je crois qu'aujourd'hui il doit y avoir sur les listes d'experts à peu près de la cour d'appel de Paris entre 100 et 150 rubriques, donc le domaine des expertises est un domaine extrêmement vaste, donc je ne vais pas vous infliger la litanie. Donc ces acteurs qui sont là et l'audience se déroule selon un processus qui est toujours le même, qui a été déterminé par la loi, et par la loi il y a 200 ans, et c'est quelque chose auquel je suis très attachée, parce que ça montre que c'est une procédure qui a vécu et qui a bien vécu, à la différence de toutes les lois qui changent tout le temps aujourd'hui. Et de garder une loi, une procédure qui montre qu'elle dure depuis 200 ans, et bien c'est que celle-là, elle a fonctionné, et qu'à mon avis, elle a encore quelques jours devant elle. Même si c'est une procédure, les cours d'assises coûtent cher et que dans nos périodes contraintes financièrement, on envisage de les réduire. Et tout ça pourquoi, et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'y arrive pas, mais tout ça pourquoi, pour arriver finalement à une décision qui est la décision du jury, décision qui s'élabore de façon là aussi extrêmement réglementée. C'est-à-dire qu'il y a des votes, un vote sur la culpabilité d'abord, un vote, et bien évidemment un vote sur la peine si la culpabilité a été retenue, avec des quotas de voix, je ne vous les donne pas parce que ça n'a pas d'intérêt, un vote qui est secret, c'est-à-dire que c'est une réponse qui est inscrite sur un bulletin qui est mis dans une urne. Tout le monde écrit avec un bic de la même couleur pour que on ne puisse pas reconnaître qui est l'émetteur de tel ou tel vote, voir le pliage du bulletin qui doit être toujours le même. Pardon de ces détails, mais ils m'apparaissent être importants parce que c'est la recherche pour les jurés d'une décision sereine, c'est-à-dire que s'ils sont assurés que ce qu'ils ont écrit sur leur bulletin ne sera connu de personne, ben c'est un vote qui est libre, qui est parfaitement libre, et ça, c'est important de le sauvegarder. Alors, ce vote est bien évidemment précédé d'une discussion à l'issue des débats, discussion qui est très ouverte, où on remet dans le pot tout ce qui a été dit pendant le déroulement du procès lui-même. Et il y en a qui ne veulent pas parler, il y en a qui parlent beaucoup, il y a des mécanismes de groupe avec des leaders, il y a des alliances, il y a des mésalliances, donc vous avez tout parce que vous avez un groupe. Donc il incombe au président de faire fonctionner ce groupe au mieux en vue de la décision. Ceci étant, comme on a partagé des moments difficiles, c'est pas très difficile, non plus. Enfin, les moments ont été lourds, je me répétais en disant difficiles. Les jurés sont dans une... D'abord, ils sont démunis, donc ils sont quand même dans une logique de construction d'une décision, c'est pas si facile pour eux. Et ce travail-là se fait... Alors moi, j'avais l'habitude de parler, alors c'est peut-être un mot qui n'est pas adapté, mais j'en ai pas d'autre, hein, de magie, c'est-à-dire que ça fonctionne. C'est-à-dire que tout le monde étant dans un désarroi extrêmement profond, dans un univers fermé pour sortir une décision, on a tous le même objectif et on est tous sur le même plan, le président, les assesseurs et les jurés. Et là, c'est un lieu très, très particulier, qui est d'ailleurs très fantasmé par les avocats, fantasmé par tout le monde, parce qu'on imagine qu'il s'y passe beaucoup d'autres choses, mais c'est un lieu où il se construit quelque chose d'extrêmement fort. Voilà. Et je parle de ce lieu qui est finalement la fin. Pourquoi ? Ben parce que les débats eux-mêmes ont été d'une richesse, et en général d'une richesse et d'une voire d'émotions fortes, qui font qu'il y a un sentiment de partage de ces moments qui ont été difficiles à vivre. Alors, donc je vais m'arrêter sur la projection du film, parce qu'on ne peut rien en tirer, pour enchaîner sur ce que j'avais projeté de vous dire. Et que la finalité, finalement, de ce film... Alors, vous pouvez voir sur Internet, sur le site du ministère, hein, être juré cour d'assises, vous pourrez vous le revoir tout seul si vous le souhaitez. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, à la fin, donc, en clôture de ce film, je rappelais au jury la finalité du cadre procédural, donc du cadre qui est défini par la loi, qui est de garantir à chacun, le juge, l'avocat, l'accusé, la victime, un processus d'élaboration de la décision qui va au plus près de la réalité de l'acte criminel, mais avec une mise à distance, que je vous disais, des émotions. Et on parle, alors là je ne vais pas m'étendre parce que j'ai perdu un peu de temps, on parle de catharsis. On parle de catharsis du procès pénal, qui renvoie donc à la tragédie, à la purgation des émotions. Alors, il y a l'aspect aussi criminologique. Le passage à l'acte criminel, j'utilisais le terme horreur tout à l'heure, mais il conserve toujours sa part d'inexplicable. Et c'est très, très frustrant pour tout le monde. C'est très frustrant pour le juge, c'est très frustrant pour le juré, c'est très frustrant pour tous les acteurs. Néanmoins, pour être très pragmatique, l'acte criminel suppose la rencontre entre un auteur doté d'une personnalité et d'une histoire qui lui est propre, et une victime qui est elle aussi à sa personnalité, son histoire, et le tout dans un contexte qui est chaque fois différent. Donc tirer, si vous voulez, des éléments de tout ça, c'est un peu compliqué. Mère Lévitu, qui écrit un droit de traité de droit criminel, dit que le passage à l'acte criminel n'a que l'apparence de la soudaineté. Le crime n'est qu'une longue patience, résultat d'une morne application quotidienne, souvent inconsciente du criminel, et de circonstances funestes. Moi, je dois dire que cette phrase correspond vraiment à ce que je vis, et dit « le crime est la réponse d'une personnalité à une situation ». Vous voyez comment on est complètement démuni par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on va aborder autour de l'audience la personnalité de l'auteur, puis la situation de la rencontre avec la victime, dans la singularité de cette rencontre, avec une difficulté qui est de taille, c'est que chacun des acteurs a le prisme de sa propre histoire. Lorsqu'il aborde la singularité de cette rencontre tragique. Donc deux évidences doivent être rappelées, c'est que la cour d'assises est assez souvent le lieu de la première confrontation physique entre l'auteur et la victime. Et j'ajoute que cette confrontation, elle est publique. Alors, je mets de côté l'huis clos pour les professionnels, il n'en reste pas moins que pour l'auteur et la victime, cette confrontation reste une confrontation publique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la cour d'assises, je regrette, enfin, vraiment, peu importe, qui est quand même très, très impressionnante dans ce qu'elle renvoie, puisqu'elle renvoie 9 personnes à minima, 12, plus les avocats, plus l'huissier, plus tout le monde. Donc la confrontation pour l'auteur et la victime, elle reste publique, même s'il n'y a pas de public au sens où on l'entend communément. Donc, et cette confrontation, elle est nécessairement violente. Pour moi, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle fait flash avec l'acte criminel, pardon d'empiéter sur un terrain qui va bien, et parce que aussi, tout le monde sait qu'elle est le préalable à la décision. Elle est le préalable à la décision. Donc il y a des enjeux autour à la fois du renvoi dans le passé à l'acte criminel, la projection sur ce qui est l'avenir, ce qui est la décision. Alors, par ailleurs, cette confrontation, elle renvoie l'auteur a une confrontation au caractère horrible et insupportable de son acte, et paradoxalement, pour la victime, a un sentiment de culpabilité. Et donc, il va falloir dénouer tout ça pendant l'audience. Je la laisse de côté. Alors, on parle aussi de reconstitution intellectuelle. Effectivement, l'audience est vécue de l'extérieur comme un schéma intellectuel et cartésien. C'est vrai, parce que pour que tout le monde puisse cheminer, il y a cette dimension-là, on ne peut pas en faire l'économie. Mais il y a une des premières questions que se pose la victime, je ne sais pas si vous me rejoindrez, on le verra tout à l'heure, mais la victime se pose toujours la question, finalement, pourquoi moi ? Et la réponse, c'est affreuse, parce que c'est parce que ce jour-là, à cet instant-là, dans ce lieu-là, elle était là, dans cette posture-là, et là qu'elle a rencontré cet individu-là, cette personnalité criminelle pour laquelle la situation était criminogène. Vous voyez tout ce qu'il va falloir tirer, parce que quand j'ai dit ça, j'ai presque tout dit. Deux exemples. Une élève de troisième qui sort de son collège aux environs de 15 heures, parce qu'elle a une heure de cours qui a été supprimée. Elle rentre habituellement à son domicile à pied, éloignée de quelques centaines de mètres. Le trajet passe par les abords de la commune qui sont bordés de taillis. Un homme précédemment condamné pour viol la croise, rebrousse chemin et la surprend par derrière, la bouscule dans un taillis et la viole. Cette jeune fille se sent coupable. Pourquoi ? De ne pas être restée à l'étude proposée par le lycée. De ne pas avoir suivi les conseils de sa mère d'éviter de rentrer seule. Et elle est de surcroît confrontée à l'audience, à l'auteur de son agression, qui nie sa présence sur les lieux. Et il faut savoir que les délégations d'un auteur à l'audience, qui est une parole publique, alors avec la correction que j'ai donnée tout à l'heure, ne font qu'accroître son sentiment de culpabilité. Et je rajoute dans le pot, si je puis dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que de surcroît va se greffer sur ce moment-là les projections de tous les acteurs, qui sont nombreuses. Il y a dans les jurés des mères de famille qui ont des adolescents du même âge, il peut même y avoir une avocate, un magistrat, que sais-je, qui se dit, mon Dieu, il est 15 heures. Mon Dieu, où est ma fille ? Donc, tout ça est dans le pot, sans que ça ne se, ça, ça se dise, si vous voulez. Alors, c'est ce qui rend quand même le climat de cette audience particulièrement pesant. Alors, mais la fonction de l'audience pour la victime doit être de lui permettre d'admettre la réalité de cette singulière rencontre avec un individu, rencontre qui lui a permis à l'individu de commettre l'acte qui lui reprochait. Non, quand elle arrive devant la cour d'assises, elle n'est pas une menteuse. Et ça nous arrive de le dire dans ces termes-là. Même si, il n'y a pas suffisamment de preuves pour dire que l'accusé qui est dans le box est celui qui est l'auteur de l'acte. Vous voyez, comme quoi il y a tout ça dans une audience de cour d'assises et combien c'est difficile à dénouer. On pourra, si vous voulez, revenir dans le cadre de... Mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, sur justement les difficultés pour une victime quand l'auteur à l'audience d'assises ni être... J'avance. Autre exemple, mais qui va vous parler aussi. Une bande de jeunes, une jeune fille a des relations sexuelles avec un garçon depuis quelques semaines. Cette bande se retrouve régulièrement dans des soirées festives et alcoolisées. Un autre garçon de cette bande demande à son copain l'autorisation d'avoir également des relations sexuelles avec cette jeune fille. Ce dernier donne cette autorisation et la jeune fille est donc violée à la fin d'une soirée bien arrosée. Je vous redis, si vous voulez, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les projections qui sont dans le pot. Et la victime lent exprime un fort ressentiment et une culpabilité également à l'égard du groupe. Donc il y a des interactions très très fortes entre ce qu'elle ressent à l'égard de l'accusé, mais également à l'égard de beaucoup d'autres protagonistes. Et c'est là où c'est compliqué. Il faut quand même que je vous donne une précision, parce que c'est important. La loi prévoit que le mineur, n'ayant pas la pleine capacité juridique, doit être représenté par son représentant légal. C'est-à-dire que ce sont soit ses parents, soit un représentant extérieur désigné par le juge d'instruction, qui sera dénommé administrateur ad hoc, mais j'en parlerai plus tard. Donc, au positionnement difficile de la victime, va s'ajouter, représenté par ses parents, va s'ajouter la souffrance de ces derniers et la culpabilité de ceux-ci de ne pas avoir protégé suffisamment leur fille mineure. Et à nouveau, vous mettez de la culpabilité Et donc, dans ces moments-là, la confrontation de l'auteur et la victime prend une dimension complexe et on a un joker à la cour d'assises, c'est la pause. Donc on suspend pour permettre à tout le monde de récupérer un petit peu de ces moments qui sont difficiles à vivre. Il faut que je vous parle aussi, parce que c'est important, d'une distinction qu'on doit faire entre la victime qui est l'enfant, c'est-à-dire au regard de son âge, et qui n'a pas sa place dans la cour d'assises, dans la salle d'audience, pendant la durée du procès, même si maintenant on leur fait voir les lieux, même si tout ça, de la victime adolescente qui, elle, est présente. Alors, ça me permet de faire une transition avec une situation qui est très différente de celle que j'ai décrite jusque-là, qui est celle de l'acte criminel commis dans un contexte de proximité familiale ou affective. Et il faut que vous sachiez, parce que ça a son importance, c'est que les actes criminels sont très majoritairement commis, mais dans des proportions très très importantes, hein, dans un contexte de proximité familiale et affective, et a fortiori sur les victimes mineures. Et ce contexte de proximité affective fait entrer tous les acteurs que nous sommes dans l'intimité, mais également dans l'histoire, de l'espace relationnel du groupe familial ou de proximité affective. Vous savez mieux que moi que c'est un. Il y a une précarité de l'équilibre relationnel de ce groupe. Et là, la mise en distance est très compliquée. Alors, encore un exemple pour illustrer cette difficulté. Un garçon aîné dans une famille est accusé d'actes de viol répétés dans la durée commis sur son unique sœur. Les parents ont pu dire à l'audience que leurs enfants étaient tous les deux des monstres. La fille, pour avoir laissé son frère commettre les actes pour lesquels il était jugé et les avoir dénoncés, et le fils pour ne leur avoir rien dit, ajoutant si tant est que cela se soit passé. Pour ajouter qu'il regrette de ne pas être encore grand-parent et de craindre d'être privé de cette joie. C'est vous dire comment, dans une cour d'assises, on peut avoir des propos d'une violence qui ajoute à la violence de l'acte, hein, qui plonge tout le monde dans un désarroi absolument immense et auquel il faut faire face. J'ajoutais... Eh oui, je ne vous dis pas la réaction intérieure de la grand-mère que je suis en entendant ça. Quelle est la conduite à tenir? Alors, on fait ce qu'on peut. Et là, je crois qu'on est un petit peu tous comme ça. C'est énoncé avec clarté qu'il y a un temps pour établir la réalité des faits, leur caractère d'infraction, avec le sens des mots qui définissent l'infraction. Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, et d'envisager la sanction qu'ils appellent. On remet le cadre. C'est la seule chose qu'on ait. Alors, dans ce cadre-là, on entend la victime, on la replace dans son histoire de victime, et on abandonne le champ des futures relations familiales à l'espoir d'un lieu de parole adapté et fécond qui permettra de métaboliser et les faits et la décision de justice. Alors, il y a un autre sujet qui me paraît important d'aborder, j'ai le droit ? 5 minutes, bon, c'est bon. Qui est celui des violences sexuelles ou non faites aux tout-petits. Ceux qui sont âgés de moins de 2 ans, alors je mets la place, oui, moins de 6 ans même, mais ceux qu'on a connus. On a une expérience commune avec le docteur Ressalement à cet égard. Pourquoi parler de ces tout-petits ? Parce que si une adolescente va pouvoir mettre des mots, aussi inadaptés fussent-ils, il y aura des mots, des réactions, des manifestations, des « je bouge sur mon siège », des « je pleure », des « que sais-je ». Le petit, je vous le disais, on ne l'a pas à l'audience, je crois que ce n'est pas sa place. Donc, pour aborder la réalité, l'horreur de l'acte, c'est compliqué. Et par ailleurs, il est difficile aussi, pour ceux qui ont été au plus près de l'acte, les enquêteurs et tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et finalement, c'est l'expert qui va là nous éclairer. Et c'est un domaine dans lequel il y a énormément et plus qu'ailleurs de dénégation. Pourquoi ? Parce qu'on est en général dans la sphère familiale ou la sphère de proximité affective et que l'enfant est hors du champ de la violence dans nos sociétés et a fortiori des lésions sexuelles. Et la confrontation de tous les acteurs avec la famille va être très très difficile parce que c'est pas, on ne peut pas le croire, c'est pas imaginable. Et donc la notion qu'il peut y avoir une réalité de ça va demander un temps beaucoup plus grand à tout le monde. Par ailleurs, l'univers familial va protéger en général l'auteur. Pourquoi ? Bah parce que, en général, c'est le compagnon, pardon, mais c'est comme ça souvent que ça se fait, et que la mère qui n'a pas protégé l'enfant va voir se profiler la séparation de fait avec son compagnon, et elle va pas la supporter. Donc elle va minimiser ce qui s'est passé parce que elle va voir mettre en péril un équilibre affectif, voire un équilibre matériel. Et l'institution médicale qui va dévoiler, l'institution judiciaire qui va consacrer, sont alors perçues comme celles qui vont faire éclater la structure familiale ou pseudo-familiale. Ce qui va conduire à un rapport de force dans lequel les violences reprochées ou mises en cause à l'accusé pourront, dans un premier trait de temps, s'effondrer devant l'effondrement de la structure familiale. Donc, on va avoir une difficulté majeure pour accéder à la réalité de ces faits, qui tient aussi avec un indice de complexité complémentaire, c'est que la douleur ressentie par le tout-petit ne s'exprime, ce que je disais tout à l'heure, ne s'exprime ni par des mots, ni par des réactions physiques immédiatement perceptibles par le profane, comme des manifestations de lésions. Et l'acteur qui n'est pas médecin, n'est pas en mesure de faire partager la douleur ressentie par la petite victime. Et cette difficulté est source d'un grand désarroi pour tous les acteurs qui ont une difficulté immense à donner réalité aux violences qui sont survenues. Et c'est pour ça que le concours des professionnels médecins experts est essentiel, parce qu'eux seuls peuvent, avec des descriptions précises, suppléer l'absence de lisibilité des manifestations de violence pour leur donner souvent réalité. La seule chose que va pouvoir dire ceux qui étaient présents ou à proximité, Oh, il n'a pas eu mal, il a juste un peu pleuré. Et oui, mais c'est ce qu'on entend. Et c'est comme ça. Enfin, je vous donne ces mots-là parce que ce sont les mots qu'on entend. Et ce sont les mots qui sont dits, effectivement, pour protéger la structure familiale. Et cette ambiguïté dans le ressenti des souffrances par le tout petit entretient dans l'environnement adulte une protection réciproque pour ne pas menacer l'équilibre relationnel qui est en place. Un exemple pour illustrer cette réalité, un enfant est confié par la mère à son concubin qui n'est pas le père pendant la journée de travail de cette dernière, qui se prolonge par une longue phase de course avec des copines. Et à son retour vers 20h, la mère découvre un enfant rencontrant des difficultés pour tenir debout. L'enfant est transporté à l'hôpital et décédera quelques heures plus tard d'une fracture du foie. Cette femme, liée affectivement à son concubin qui lui indique que l'enfant a fait une chute dans l'après-midi, est prise dans un conflit interne entre la relation affective et matérielle qui la lie à son concubin et qu'elle cherche à préserver, parfois à tout prix, et qui lui fera occulter la réalité des violences que son concubin a pu commettre sur sa petite fille. Alors, c'est pour ça que je parlais de l'administrateur ad hoc, pour remédier à ce conflit interne finalement entre le représentant légal de l'enfant qui est la mère, qui devrait finalement représenter l'enfant au procès, la loi a prévu ce qu'on appelle l'administrateur ad hoc. Je vous en parlais au tout début. Cet administrateur ad hoc, qui appartient le plus souvent à une association, porte la parole de l'enfant. C'est une tâche difficile parce que cet administrateur ad hoc a quelques entretiens avec l'enfant, ses proches, ses éducateurs, et va porter une parole au nom de l'enfant. Et c'est une parole qui est très, très difficilement audible par les professionnels parce qu'elle est institutionnelle et qu'elle ne véhicule pas tout ce que je vous ai dit et évoqué tout à l'heure. Et s'il y avait peut-être une réforme à faire, aujourd'hui on nous demande quand est-ce qu'on a comme idée de réforme. Ben, je pense que là, il y a quelque chose qui est inadapté. Je ne sais pas comment il faudrait le faire, mais il faudrait probablement trouver un autre moyen de représenter ces enfants victimes quand ils ne peuvent plus l'être par leurs parents, ou tout du moins avec un cheminement qui soit différent. Conclusion, ça va, c'est bon. Simplement, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que c'est probablement la grande leçon que j'ai tirée de ces années, c'est que le fait criminel présente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une singularité, une part d'inexplicable et d'indicible qui conduit à l'humain que nous sommes de se contenter de prononcer une décision pénale, je sais que c'est beaucoup, qui n'est qu'une vérité judiciaire. C'est-à-dire qu'on va dire ce fait-là commis ce jour-là, constitue cette infraction et est puni à hauteur de temps. Alors vous me direz, c'est déjà beaucoup, mais ce résumé qui est peut-être très, très violent, si je puis dire, permet à tout le monde aussi de trouver des bornes nécessaires, et ça n'est qu'une vérité judiciaire. Ça n'est pas la vérité avec tout ce qu'elle peut recouvrir, tout ce qu'elle peut englober. Et je dis que la cour d'assises n'est comptable que de cela, et il ne faut pas lui demander plus.
Voilà. Merci. Alors, je vous propose qu'on réserve 10 minutes en fin d'intervention pour les questions.